Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine scientifique avec toute l'équipe de La Tête au Carré. Violaine Ballet réalise l'émission dont voici tout de suite le sommaire. Dans quelles circonstances l'écriture est-elle née? Comment un jour des hommes ont eu l'idée de cette innovation majeure pour l'histoire de l'humanité? C'est le thème de l'émission ce lundi avec mes invités qui publient un ouvrage sur la question, Roland Cher et Pascal Vernus. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Roland Cher, vous êtes philosophe et ancien directeur sciences et société de la Cité des Sciences. Paul Vernus, vous êtes égyptologue et directeur d'études...
Pascal Vernus.
Vous êtes égyptologue. Qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs ? Ben voilà, ben Pascal Vernus, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Ça, c'est bon. Vous publiez ensemble avec deux autres auteurs, Viviane Aleton et Jaroslav Magnachik. Est-ce qu'on le prononce bien comme ça, Roland Cher ? Voilà, les origines de l'écriture aux éditions Le Pommier. Et vous allez donc nous raconter l'histoire de cet événement majeur lorsque des hommes ont commencé à écrire pour la toute première fois. On va se retrouver dans un instant avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Manuel Calma viendra nous rejoindre ensuite comme tous les lundis avec un psy dans la ville. Elle a rencontré cette semaine le docteur Raphaël Gachetti pour évoquer la maladie bipolaire et ses troubles de l'humeur qui font tant souffrir ses malades et leur entourage. Et puis la revue de presse, pour terminer, avec aujourd'hui Christophe Galfard et Pierre Kerner. Voilà donc pour le sommaire de l'émission qui a été préparé par Chantal Lemontagnier et Anne-Cécile Perrin.
Vous écoutez La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
J'ai quelques vices, mais je suis pisse, bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice, profite. Même si c'est que ça glisse, avec le vent comme complice, 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 avec le vent comme complice. Mesdemoiselles et mesdames, messieurs, c'est Johnny Foulefeu. Johnny s'en fout, Johnny veut sa part de soleil. Comme vous, l'animal à deux pattes qui pense et marche debout. J'ai des idées étranges et quelques rêves un peu fous. J'aimerais causer avec les animaux comme je le fais avec vous. Faire de la gratte comme Django, Jimmy et Paco. Pour ça je rêve tôt dès le matin, j'y crois fort avant le petit déj. Paraît qu'on a rien sans rien, si le savoir sans privilège. J'en sais trop rien, puis je donne ma langue au chat cousin. Bien que je sois chelou, un peu vilain, pas voyou, même pas méchant, pour dessous tout, juste innocent comme vous, même si comme vous. Parfois j'ai un peu de mal à aller jusqu'au bout, j'avoue. Johnny, plus d'une fois j'ai pris mes jambes à mon cou, c'est fou. Je suis plus fort pour ramasser coups, donner des coups, et à force d'en prendre Johnny, vous voyez flou. J'ai quelques vices, mais je suis pisse, bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice. Profite, même si c'est que ça glisse, avec le vent comme complice, 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 avec le vent comme complice. Johnny belle gueule, hey, Johnny ferme la grande gueule. Johnny dans le fond, je sais que t'es seul ma gueule. Johnny be good, good, Johnny be bad. Johnny was a good, 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 good man. Johnny t'es pas non, c'est pas ce qui la dérange. Tu sois poli ou non, dans le fond, je vois pas ce que ça change. Johnny pourquoi tu te connes, te renfrons la trône. À grand coup de bonne, hey, Johnny sans vergogne. Johnny savait mais là c'est plus et puis t'as trop mu. Johnny, si tu continues comme ça, ils vont te bouffer tout cru. Johnny aime la chicha, check pas les nousa, trop la chuma, d'être la loi pour si peu de maca. Johnny, mais il y avait du taf, alors j'y suis allé, voilà. Johnny, je voulais un peu de crispy et puis rentrer chez moi. Mais le temps et les années ont dit ça se passera pas comme ça. Johnny, le fossoyeur, poète à ses heures. Johnny le petit menteur et sa sœur qu'elle vend des fleurs. Johnny, tu t'es pas levé ce matin pour aller à la messe. T'as préféré rejoindre Johnny, ta fausse et sweet caresse. Johnny t'en a déjà trop dit, fou le croyant en vitesse. Avant que le bitume ne te laisse. Johnny c'est lui, Johnny c'est vous, Johnny c'est moi. Faites bien gaffe à vous et m'oubliez pas.
J'ai quelques vis mais je suis pisse. Bien plus clean que le palais de la justice. Si je fais des vieux os, faut pas que ça soit à l'hospice. Je profite, même si je sais que ça glisse. Avec le vent comme complice. 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 Avec le vent comme complice.
Avec le vent et la voix d'Anis sur France Inter.
Du lundi au vendredi à 14h.
Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux.
Dans la tête au carré.
Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux.
Sur France Inter.
Tu ne pourrais pas comprendre, tu aimes trop les sciences exactes.
Le dossier de la tête au carré plonge cet après-midi aux origines de l'écriture pour découvrir dans quelles circonstances est née donc cette innovation majeure pour l'histoire de l'humanité. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'égyptologue Pascal Vernus et le philosophe Roland Cher. Vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages, vos questions sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Les origines de l'écriture, c'est donc le livre que vous publiez aux éditions du Pommier avec deux autres confrères scientifiques et dans lequel donc vous racontez l'invention des premiers documents écrits. Roland Cher, donc c'est un livre écrit à huit mains. Plusieurs disciplines ont été réunies pour raconter donc cette grande histoire de l'écriture.
En fait, essentiellement deux, puisque ce sont les spécialistes d'Égypte, de Mésopotamie et de Chine, de l'écriture chinoise, qui ont été mis à contribution avec une introduction qui se veut philosophique que j'ai faite pour ma part. L'origine du livre, c'est un cycle de conférences qui avait eu lieu à la Cité il y a quelques années, à la Cité des Sciences il y a quelques années, dans le cadre d'un travail un peu général sur les origines des grandes innovations culturelles et techniques. Et puis, donc, nous avions reçu à l'époque, pour l'écriture cunéiforme, Yaroslav Masiaski, dont vous parliez tout à l'heure, on l'a mis en premier dans l'ordre chronologique, parce qu'on présume, même si la chose est discutée, que l'écriture sumérienne est la première. Pascal Vernus pour l'écriture égyptienne et Viviane Alenton pour l'écriture chinoise.
Ouais. Alors justement, Pascal Vernus, est-ce que la science a pu regrouper tous les indices nécessaires pour reconstituer le scénario des premières formes d'écriture ?
Tous les indices peut-être pas, mais nous avons quand même un ensemble de faits convergents. Il semble que l'apparition de l'écriture soit liée à la naissance de cités ou d'états-cités. En tout cas, c'est le cas pour l'Égypte et c'est le cas pour Sumer. À partir d'un certain moment, là, après la révolution néolithique, les gens ont tendance à se grouper, les sociétés à se stratifier et à reconnaître un pouvoir prééminent. Et ce pouvoir prééminent, il veut justifier sa prééminence par un apparat à la fois iconographique, et puis cet appareil iconographique devient graphique lorsque on veut aller plus loin dans la proclamation et la justification idéologique de sa prééminence. C'est du moins la thèse que je défends pour l'Égypte ancienne. Je serais beaucoup plus nuancé, bien entendu, pour d'autres civilisations, mais en gros, on peut présenter ce scénario.
Ouais. Alors, quels sont les outils, justement, dont on dispose pour pouvoir retracer ces toutes premières heures de l'écriture, Roland Cher ?
Mais ce sont essentiellement des outils archéologiques, puisque, comme vous savez, on considère que l'écriture, c'est le commencement de l'histoire et que lorsqu'on veut en étudier l'origine, il faut se placer avant l'histoire.
Donc c'est ça, le passage de la préhistoire à l'histoire, c'est vraiment ce moment de l'écriture.
C'est une manière de dire, tout simplement, parce que les historiens travaillent sur des sources écrites et que lorsqu'il n'y a pas des sources écrites, ils ne s'appellent plus des historiens, mais des archéologues.
Ouais, disons, c'est vrai.
Mais donc, c'est une... si vous voulez, ce que Pascal a dit est très important en ce qui concerne le contexte de la révolution néolithique, parce qu'en effet, la datation qu'on donne, c'est la fin du 4e millénaire, aussi bien pour Sumer que pour l'Égypte, les 3200, 3100 avant notre ère. La révolution néolithique, c'est en gros moins 10 000. Et la révolution néolithique a créé des transformations extraordinairement profondes et a déclenché une espèce de cascade d'inventions. C'est une accélération formidable de l'inventivité humaine sur le plan technique, sur le plan cognitif, sur le plan social, évidemment. Les trois, d'ailleurs, cognitif, technique et social, étant extraordinairement liés. C'est une mutation socio-technique de grande ampleur dont l'invention de l'écriture à la fin du 4e millénaire à Sumer et en Égypte, c'est-à-dire dans les deux cas dans le croissant fertile, en quelque sorte, est un épisode majeur.
Oui, alors justement, Pascal Vernus, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau de la période néolithique? Il y a une sédentarisation des hommes, il y a une explosion de la démographie, il y a de l'élevage. Donc tout ça, ça crée des conditions pour que naisse l'écriture ensuite?
C'est-à-dire que l'écriture ne naît pas nécessairement, mais ça lui permet de naître dans certains cas. Bon, tout simplement, les sociétés, surtout ce qui est important, c'est la stratification des sociétés. À partir du moment où on a une économie de production, à partir du moment où il y a du stockage, et donc on peut monnayer, on peut spéculer, les sociétés se stratifient puisqu'elles se divisent en différentes strates, et surtout, leur nature change. C'est-à-dire qu'on reconnaît, on est obligé de reconnaître une loi incarnée par un pouvoir qui est qualitativement prééminent et d'une autre nature par rapport aux autres. Mais pour que ce pouvoir puisse se justifier, il a besoin d'un apparat. Alors ça peut être simplement un apparat vestimentaire, un apparat iconographique, mais au bout de ce besoin de justification, apparaît l'écriture.
Donc l'écriture aurait servi justement à cet apparat et aux chefs qui ont besoin de s'affirmer.
Un exemple très simple. Je vais vous donner un exemple très simple en comparant. Supposons que nous ayons une société avec un chef suprême. Ce pouvoir suprême, au début, il a comme emblème la Maison Blanche. Alors, chaque fois qu'il se manifeste, on dessine la Maison Blanche. Mais au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que la Maison Blanche, celui qui actualise le pouvoir, ça peut être ou Bush ou Obama. Et donc, le désir de préciser qui est derrière ce pouvoir amène à le besoin de signifier Bush ou Obama.
Donc, il faut préciser vraiment pensée.
Pour signifier Bush ou Obama, là, on ne peut plus se contenter d'images. Il faut déjà une amorce de phonétisme. Et donc, c'est là que...
C'est ce qui s'est passé à l'époque
pour l'Égypte ancienne. Hein, pour Sumer, le scénario est peut-être différent. Mais pour l'Égypte ancienne, c'est très, très visible. Ouais. Et le cas est semblable aussi en Mésoamérique. Il faut voir aussi le parallèle avec la Mésoamérique.
Qu'est-ce que vous appelez exactement la Mésoamérique?
La Mésoamérique, c'est les Mayas, les Aztèques, et toutes ces écritures, Olmec, Zatopek. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les Mayas, le processus était relativement parallèle avec ce qui se passe en Égypte.
L'écriture... À la même période?
C'est beaucoup plus tard. C'est décalé, mais il n'y a pas d'influence l'un de l'autre, pour cause. Hein. Et on voit bien que c'est le besoin idéologique d'exprimer un pouvoir. Ça, c'est chez les Mayas, c'est absolument frappant. Chez les Égyptiens aussi. À Sumer, je serais plus réservé.
Roland Cher.
Oui, ce rapport avec la révolution éthique, je voudrais dire une chose, c'est que, au fond, si on s'intéresse à ce que l'écriture nous permet de faire sur le plan cognitif, je dirais qu'elle nous permet de stocker de l'information et d'échanger de l'information. C'est-à-dire qu'on confie à des supports matériels le soin, de se souvenir pour nous. On externalise en quelque sorte la mémoire, et le soin de transmettre pour nous, c'est-à-dire qu'au lieu des limites de la parole qui porte à court terme et qui, comme on dit, verba volant, scripta manent, qui ne dure pas, on confie à un support matériel le soin de transmettre pour nous.
Oui, vous dites, c'est une conquête de l'espace, l'écriture.
C'est une conquête de l'espace. Mais si vous voulez, ce qui est frappant dans la révolution analytique, et je fais ici référence au livre que vient de faire paraître Alain Testard qui s'appelle « Avant l'histoire », qui met l'accent sur le fait que l'invention de l'agriculture et l'élevage, c'est l'invention, il dit ça pour le dire d'un mot, l'invention de la richesse. L'invention de la richesse, c'est-à-dire d'une capacité de stockage de produits qui peuvent s'accumuler, qui peuvent être échangés contre d'autres produits, échangés contre des services, c'est-à-dire la richesse peut devenir un instrument de domination, et on rejoint la question de la stratification sociale dont parlait Pascal à l'instant. Et donc, il y a une espèce d'analogie entre ce que fait la révolution éthique, stocker, échanger, et ce que fait l'écriture avec de l'information, stocker, échanger.
Et ça fabrique du collectif. Parce que, évidemment, ça concerne les populations.
Alors, à ce que dit, aux paroles excellentes de Roland Cher, j'ajouterais juste une prolongation. Ça sert à stocker et aussi à proclamer de manière ostentatoire. Ça, je crois que la notion de proclamation ostentatoire, elle est vraiment très importante dans toutes les civilisations. On monumentalise. Il faut faire des monuments. Et sur ces monuments, il faut exprimer l'idéologie dominante.
Alors, des courriels des auditeurs, il y a beaucoup de questions intéressantes, puisqu'effectivement, on peut se les poser d'ailleurs en lisant votre livre. Alexandre, par exemple, et Armel nous disent ceci. Pourquoi ne parle-t-on pas d'écriture quand il s'agit des témoignages transmis par les peintures rupestres? Et Armel dit, est-ce que vous considérez justement ces peintures comme une sorte d'ancêtre de l'écriture? Et savez-vous si on observe des grammaires différentes suivant les localisations? Alors d'abord, pour les hommes préhistoriques, effectivement, est-ce que ces symboles qu'on voit parfois sur les parois des grottes pourraient être similaires à une sorte d'écriture?
Alors là, c'est un problème fondamental et je demande à vos auditeurs de bien comprendre que la capacité à symboliser est une capacité très ancienne. Mais il faut distinguer ce qui est sémiographie, c'est-à-dire un système de symboles, de ce qui est écriture. Il y a une grande différence, c'est que l'écriture permet de fixer le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage? Le langage, c'est un code qui a sur les autres la capacité de tout dire sur le monde. Par exemple, je vais prendre un exemple très précis. Le code de la route, c'est un système symbolique, hein. Mais c'est un système symbolique extrêmement limité. Il peut juste énoncer certaines relations. Alors qu'avec l'écriture, à partir du moment où vous fixez le langage, vous pouvez dire le monde dans toute sa vastitude. Alors je reviens maintenant à ces peintures. Ces peintures ont certainement des systèmes symboliques. Ça, c'est absolument indéniable. Et je crois qu'on les découvre de plus en plus. Mais ce n'est pas de l'écriture au sens où il n'y a pas une relation biunivoque entre les symboles sur ces représentations et des éléments du langage. Vous voyez la différence? C'est crucial à mon sens.
Oui, Roland Cher.
Oui, dans mon texte, j'utilise le mot grec graphein, donc qui veut dire au fond, qui veut dire à la fois écrire et dessiner en grec, qui veut dire graver, c'est-à-dire marquer d'une empreinte un support matériel. Si l'on veut parler de l'écriture au sens strict, en effet, on a ce que dit Pascal, et ce qui est frappant dans les trois histoires originaires de l'écriture qui sont traitées dans le livre, à Sumer, en Égypte et en Chine, c'est qu'elles se phonétisent. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter des choses, disons pour faire vite, pictogramme, très vite et de manière quasiment contrainte, l'écriture devient, on représente non plus des choses, non plus des idées, mais des mots. Des mots au sens de la phonétique des mots ou des parties de mots, puisque ce sont des lettres ou des syllabes. Autrement dit, tout se passe comme si, pour améliorer la compétence de l'écriture, la langue la tirait à elle, représentation symbolique, la représentation graphique. Reste que si on veut, et moi j'essaye de le faire dans mon texte, si on veut continuer à utiliser le terme de graphène dans toute son amplitude, dessiner, peindre, etc., relève d'une même activité qui consiste à porter une empreinte sur un support matériel. Et j'y tiens beaucoup, parce que je tiens beaucoup dans la suite de mon texte à parler de ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est-à-dire photographie, radiographie, cinématographie, phonographie, etc. C'est-à-dire toutes ces techniques qui permettent de graver non plus de la langue, non plus de la parole, mais des images fixes, des images
jusqu'à
animées,
la numérisation
des
d'ailleurs.
La numérisation étant la technique ultime qui permet d'avoir un code unique pour l'ensemble de ces formes d'information.
Alors Pascal Vernus, où est-ce qu'il faut aller exactement pour retrouver les toutes premières traces de l'écriture? Parce qu'il y a une petite bataille entre la Mésopotamie et l'Égypte, hein, d'après ce que vous nous dites. Alors quelles sont vraiment aujourd'hui vraiment les infos sur lesquelles on peut considérer que l'écriture est née?
Alors, c'est une vérité historique. Je vais être un traître à l'égyptologie.
Il est très bon joueur.
Je vais reconnaître que,
plutôt la Mésopotamie.
À l'heure actuelle, les choses étant ce qu'elles sont, et sous réserve de documents, etc., la Mésopotamie semble avoir la prééminence pour deux raisons. Une raison archéologique, malgré les doutes qui pèsent, il semble bien que les premières écritures sumériennes soient peut-être d'un siècle antérieur, mais il y a une raison beaucoup plus importante. Il semble bien qu'à l'époque où naît l'écriture, à Sumer et en Égypte, l'influence culturelle aille de la Mésopotamie à l'Égypte et non en sens inverse. Ça ne veut pas dire que les Égyptiens ont emprunté l'écriture sumérienne, il n'y a aucun rapport entre l'une et l'autre, mais ils ont pu être amenés à imaginez l'idée de l'écriture sous l'influence culturelle sumérienne. Mais ce que je dis est bien entendu sujet
à
révision.
Quelle est la preuve d'abord? Quel est l'objet scientifique qui permet de dire ça, archéologique? Et à quelle date exactement?
Alors la preuve, l'influence culturelle mésopotamienne, personne ne la met en doute, elle est archéologique. Il y a des dizaines d'objets en Égypte ancienne qui représentent clairement l'influence de la culture sumérienne et même susienne, des plateaux susiens de l'époque. Ça, il n'y a aucun doute, tout le monde l'admet. Les datations, c'est une question d'archéologie. Alors on a la première écriture égyptienne, les premières attestations, c'est la fameuse tombe d'Abydos, d'un roi qu'on appelle le roi Scorpion, mais ce n'est pas sûr qu'il s'appelle Scorpion, et on a pu la dater grosso modo, entre 3200 et 3250. Et les premières écritures sumériennes sur tablette semblent, sous toute réserve, dater plutôt de 3300-3350. Voilà la situation, mais il y a un problème technique, je ne vais pas vous en parler, ça ennuierait vos auditeurs. Mais sachez simplement que les premières tablettes sumériennes ont été trouvées dans une couche de rebut. Donc la datation est peut-être sujette à caution.
Ouais. Donc léger avantage provisoire à la Mésopotamie.
Un retournement de situation n'est pas envisageable.
Comme vous l'écrivez.
Mais, si vous voulez, le fait de donner une date ponctuelle est en soi problématique. Par exemple, dans le cas de Sumer,
on a besoin de voir la transition
entre la notation sur des boules d'argile par des poinçons de chiffres, d'abord d'un système de numération, ensuite des contenus de stock, de contenu ou de monnaie d'échange, donc de listes, et petit à petit, ça devient d'écriture. Donc, il est extrêmement difficile de donner une date pointue.
Pour les auditeurs, on peut leur dire quand même, entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ, ça c'est une certitude, apparaît l'écriture aussi bien en Mésopotamie qu'en Égypte.
Ouais, on en reparle dans un instant, justement, de cet aspect, avec les courriels des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission franceinter.fr, juste après Tomorrow's World. So Long My Love avec Tomorrow's World et Djoubaka, bien sûr, signe la programmation musicale de cette Tête au Carré où nous parlons de l'écriture avec mes invités, le philosophe Roland Cher et l'égyptologue Pascal Vernus, à l'occasion de la sortie de ce livre « Les origines de l'écriture » aux éditions Le Pommier, et vos messages sur franceinter.fr, beaucoup de courriels. François nous dit ceci, n'oubliez pas de mentionner que l'inventeur de l'écriture est également l'inventeur de la lecture. C'est vrai, il y a eu deux innovations dans le même temps.
Et deux apprentissages.
C'est vrai. Vous parliez tout à l'heure, Roland Cher, du rôle de l'écriture, évidemment, sur la distance, l'espace, hein, puisqu'il a permis vraiment aux hommes très, très loin les uns des autres de se rapprocher par ce support. Ça joue un rôle très important aussi autour de la mémoire.
Absolument, c'est une, j'aime utiliser le terme de prothèse de la mémoire, c'est-à-dire qu'au fond, vous savez, on dit souvent aujourd'hui qu'on est en train d'avoir un corps augmenté, mais au fond, c'est une vieille histoire, l'histoire du corps augmenté. Dès qu'on invente l'écriture, on a une prothèse de la mémoire qui permet de confier à ce support matériel le soin de se souvenir. Et ça a des conséquences considérables dans la transmission culturelle. Et en particulier, on parlait tout à l'heure de ce que l'écriture fait collectif, de l'écriture élargit les liens qu'on peut avoir avec les autres dans les sociétés dont on parlait à l'instant, mais c'est vrai aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'au fond, l'écriture, elle crée une espèce d'appartenance à un collectif humain qui est composé de morts et de vivants. Je peux, avec l'écriture, recevoir un message qui m'est envoyé par les morts, et je peux, lorsque j'écris, en adresser un à des êtres humains qui ne sont pas encore nés. Donc, du coup, j'appartiens à une espèce de collectif diachronique beaucoup plus long que dans la transmission orale. Et c'est un phénomène. C'est en ce sens peut-être qu'on peut dire que l'écriture et l'histoire ont partie liée, pas seulement pour des raisons de spécialité disciplinaire, mais parce que l'écriture fait de l'histoire, nous fait appartenir à des collectifs historiques.
Ouais. Quel impact d'ailleurs cognitif sur l'espèce humaine, cette apparition de l'écriture? Est-ce qu'on peut l'évaluer aujourd'hui?
Alors, vous savez que c'est une discussion, je crois, qui n'a pas de solution. Platon disait que l'écriture était un artifice qui allait nous empêcher de penser, puisqu'il allait l'écriture, au fond, c'est de la mémoire inanimée. Et puis d'autres disent que lorsqu'on confie à des techniques de ce type le soin de se souvenir ou de parler, du coup la tête se libère, vous savez. C'est l'idée que, au fond, avec un ordinateur, comme dit Michel Serres, nous avons perdu la tête, mais que du coup nous pouvons en faire autre chose.
Ouais, donc pour Platon, c'était plutôt un déclin cognitif.
Absolument. Platon, c'était un déclin cognitif. Et alors, on parlait de technologie intellectuelle. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un comme Jacques Goudy, qui a été un explorateur formidable de l'écriture, explique là aussi l'ambivalence de l'écriture. Ça permet soit de sacraliser un texte, c'est-à-dire ça peut être un outil d'orthodoxie, et les religions du livre sont là pour le prouver, mais ça peut aussi être une manière de mettre à distance une pensée, de mettre à distance une information et d'introduire un rapport critique par rapport. Autrement dit, d'un côté, on rationalise, mais de notre côté, orthodoxie.
Alors justement, aujourd'hui, c'est la question de Thierry, un auditeur sur franceinter.fr, qui se demande si les nouveaux modes de communication vont entraîner une dégradation de l'écriture vers le phonétique et si l'écriture est en danger aujourd'hui.
Comme toujours, ce que l'on perd d'un côté, on le rattrape de l'autre. Alors, il est bien entendu, par exemple, que les SMS développent une sorte d'écriture phonétique. Mais en même temps, le développement de la publicité...
Mais ça développe une nouvelle écriture tout court aussi.
Absolument, absolument. Tout à fait phonétique. Hein. On écrit YouTube par U. Et voilà, exactement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, par exemple, que la notion de publicité, le besoin de publicité, d'ostentation, réintroduit des raffinements dans l'écriture. Donc, les deux, je ne pense pas qu'on puisse parler ni de déclin proprement parlé. Je pense que ça va changer de nature, mais que l'écriture restera toujours alimentée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur.
Non, je pense comme vous sur l'écriture de la langue, qui a toujours subi des transformations et qui a une vie, heureusement. Mais je pense aussi que, malgré tout, le fait que les techniques du 19e siècle nous aient appris à enregistrer de manière mécanique le son, la musique, l'image fixe, l'image animée, c'est-à-dire qu'on peut faire tout le détail de ces inventions, elles sont entre 1839 et 1895, en gros. Ça, d'une certaine façon, le patrimoine enregistré, son centre de gravité s'est déplacé du côté de l'audiovisuel par rapport au patrimoine écrit. Je pense que ce qui change, c'est que la bibliothèque, les humanités, c'est-à-dire le patrimoine écrit, ne peut plus jouer le même rôle que celui qu'il a joué jusqu'au 19e siècle.
Un courriel d'Alexandre qui se demande ceci. La naissance de l'écriture est-elle issue d'une classe sociale particulière ou d'un besoin particulier? Alors, dans le cas de l'Égypte, justement,
dans le cas de l'Égypte, c'est bien clair. Il s'agit pour le pouvoir dominant de justifier, de proclamer de manière ostentatoire ce pouvoir en multipliant les capacités de l'iconographie par l'écriture proprement dite. Ça, c'est une évidence, c'est indiscutable, je crois.
Ouais. D'autres éléments là-dessus ?
Dans le cas de Sumer, je ne suis pas spécialiste, donc j'avance avec précaution. Je pense que l'écriture a eu aussi, outre le rôle ostentation dont parle Pascal à propos de l'Égypte, un rôle de gestion de biens, de gestion des stocks, de gestion des échanges. Et bien entendu, de ce point de vue-là, l'écriture est très étroitement liée à l'émergence d'une classe riche. L'émergence de la richesse et de quelqu'un qui se sert de sa richesse, y compris pour exercer du pouvoir.
Alors justement, Pascal Vernus, vous parlez d'un embryon d'écriture dans le mobilier funéraire, par exemple, en Égypte.
Oui, c'est le cas de cette tombe à laquelle je faisais allusion. On a trouvé des étiquettes qui étaient destinées justement à distinguer les produits que le mort emportait avec lui. Et sur ces étiquettes, nous avons ce qui semble être la première écriture connue dans l'Égypte ancienne. Alors, c'est des énoncés extrêmement limités. Ça se limite à 2-3 signes. Mais ça indique, semble-t-il, la provenance du produit ou la nature du produit. Ouais. Donc, on le mettait dans la tombe et il y avait le produit. Et en même temps, il était, en quelque sorte, représenté par l'inscription qui le déterminait et qui, en même temps, en quelque sorte, par un effet performatif, maintenait au-delà de temps sa valeur. Il faut ne pas oublier non plus l'aspect performatif de l'écriture. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous créez l'essence même de ce que vous écrivez. Et si vous le fixez sur un support dur, eh bien l'essence de ce qui a été créé va être fixée. Ça, je crois que ce rôle est très important dans les croyances funéraires.
Ouais. Et là, on peut y voir les tout premiers hiéroglyphes dans cette
tombe
précisément.
Cette tombe-là, donc, je répète, la date 3250 ou 3200 avant Jésus-Christ. Ouais. C'est une tombe qui a été trouvée à Abydos par un fouilleur allemand. Il faut citer son nom, Gunther Dreyer, et on l'appelle la tombe UJ, c'est le terme technique.
Un auditeur nous dit ceci, tous les peuples anciens avaient pour croyance commune que l'écriture hiéroglyphique ou cunéiforme leur avait été apportée de l'extérieur et enseignée comme l'agriculture par des dieux venus de l'espace. Qu'en dites-vous ?
Non, je ne crois pas que dans l'Égypte ancienne, l'écriture vient des dieux, bien entendu, mais pas des dieux étrangers. Dans le cas de l'Égypte ancienne, c'est le créateur, le démiurge, qui a créé l'écriture et qui ensuite l'a transmise au pharaon et aux hommes dont dépend le pharaon.
Roland Cher, là-dessus.
Si j'ai bien compris, il y a un mythe sumérien qui fait de l'écriture une invention humaine, c'est-à-dire que c'est un souverain qui avait un long message à envoyer à un de ses vassaux récalcitrants, qui avait besoin de lui expliquer beaucoup de choses. Et le messager étant incapable de s'en souvenir par sa seule mémoire, c'est un très beau texte d'ailleurs, il a inventé l'écriture pour adresser au loin ce message trop long.
Ouais. Et donc il utilise...
Et donc c'est une invention
humaine.
Voilà. Dans la mythologie sumérienne, c'est présenté comme une invention humaine.
Où en est-on du déchiffrage de l'écriture maya, justement, demande Jack.
Des énormes progrès ont été faits maintenant. Vous savez, pendant un certain temps, on s'est même demandé si c'était une écriture. Maintenant, aux États-Unis en particulier, en France aussi, mais on déchiffre cette écriture, qui est une écriture très complexe et très sophistiquée, mais qui a l'avantage de véhiculer une langue qui est connue, puisque le maya est encore parlé, et l'un des dialectes qui est utilisé dans les écritures mayas est connu et actuellement vivant, même si modifié, bien entendu. Donc, c'est quelque chose qui progresse.
Donc, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, Pascal Vernus, les chefs avaient besoin, finalement, de ce support pour valoriser, renforcer leur pouvoir et le faire savoir. Alors, le sérec, c'est un mot qui revient souvent dans votre texte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, c'est l'emblème du pouvoir. Imaginez la représentation de la Maison Blanche, justement. On la pose un peu partout, sur tous les monuments ou sur tous les produits sur lequel le pouvoir en place a des droits. C'est une manière de se l'approprier. Ouais. Et donc, on voit ce dessin un peu partout. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au début...
C'est une sorte de blason ?
C'est un blason. Ouais. Au début, ce blason est vide. Et puis, peu à peu, on se met à le remplir avec le nom de celui qui, à ce moment, détient le pouvoir. Imaginez donc, je reprends mon image, vous avez l'image de la Maison Blanche, et puis peu à peu, vous commencez à mettre dedans des signes qui veulent dire « Bush », Clinton, Obama. Ouais. Mutatis mutandis,
oui,
bien
voilà,
évidemment, vous l'avez compris.
Pour être tout à l'époque. Et l'alphabet, Roland Cher, est-ce qu'on a une idée de ce pareil, alors, de sa date de naissance ?
Notre alphabet, oui. On dit que c'est la civilisation phénicienne autour de Tyr qui a inventé l'alphabet par un procédé qui est d'ailleurs celui de la phonétisation de beaucoup d'écritures, qui est le procédé du rébus. Hein, c'est-à-dire qu'on représente une maison. La maison se dit en phénicien « bet » et au lieu de considérer que c'est une représentation de la maison, on dit que c'est une représentation du son par lequel commence, ça semble être, l'acrophonie, donc un rébus. Mais cela dit, donc ça c'est l'alphabet que nous connaissons nous et qui a ensuite essaimé avec des tas de dérivés. Mais il y a eu probablement des alphabets bien antérieurs. Alors je pense que Pascal Vernus va nous éclairer là-dessus.
Oui, là encore, les découvertes récentes ont tout changé. Nous savons maintenant que l'alphabet phénicien, dont M. Scheer parle avec à juste raison, a été inventé par des Sémites qui étaient en Égypte. C'est ce qu'on appelle l'écriture proto-sinaïtique. Dès 1800 avant Jésus-Christ, des Sémites au service des Égyptiens ont inventé un alphabet. Alors ils ont pris les signes égyptiens, ils leur ont donné la valeur qu'ils avaient en hébreu, et ils ont retenu, enfin en hébreu, excusez-moi, dans la langue sémitique, et ils ont retenu la première consonne de ce mot, ce qu'on appelle le principe d'acrophonie. Alors je reprends ce qu'a dit excellemment M. Scheer. Vous avez un hiéroglyphe qui représente une maison, en égyptien, peu importe le nom, mais ils le lisent dans la langue sémitique, bête, et ensuite, par le procédé acrophonique, ils gardent que le son B. Et c'est ainsi que le premier alphabet, la première écriture alphabétique, on le sait maintenant, c'est 1800 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, en Égypte, mais pas par les Égyptiens, par des sémites au service des Égyptiens.
Est-ce que l'écriture, d'ailleurs, ça a été un beau succès à l'époque? Est-ce que ça s'est vite, très vite diffusé? Est-ce que l'humain s'en est emparé? Ou est-ce qu'au contraire, il a fallu que cette innovation s'installe tranquillement?
Non, c'est une écriture. Les écritures, on sait qu'elles peuvent mourir, elles peuvent ne pas être transférées. C'est quelque chose qui échappe à une logique, du moins dans l'Antiquité. Je ne parle pas à notre époque, évidemment, hein, mais dans l'Antiquité, ça ne répand pas aussi facilement qu'on peut le croire. Quant à l'Égypte ancienne, qui est le domaine que je connais, elle a eu quand même deux rejetons, donc cette écriture proto-sinaïtique, mais ça très indirectement. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est l'écriture méroïtique. Imaginez-vous que dans le Soudan, dans la région soudanaise, quelque chose comme au 4e siècle avant notre ère, on a utilisé l'écriture égyptienne pour écrire une langue qui était la langue des populations qui habitaient le Soudan à cette époque. Ouais. C'est donc une filiation.
Ce courriel de Karine, les tablettes ont marqué le début de l'écriture, en marqueront-elles sa fin ? Avec les tablettes numériques, évidemment. C'est un petit peu l'écho de la question précédente, hein, sur les dangers... fin de l'écriture, mais vous avez l'air tout à fait confiant en la matière. Roland Scheer, vous souhaitiez...
Non, sur la diffusion de l'écriture, d'une part, il faut ce qu'on a dit du rôle de l'écriture lié au pouvoir a fait aussi que l'écriture était quand même longtemps une pratique assez réservée, assez réservée à des spécialistes proches du pouvoir. Que d'autre part, la plupart de ces écritures qui sont plutôt syllabiques avant l'invention de l'alphabet sont des techniques difficiles à acquérir, longues à acquérir, donc qui ne peuvent pas être partagées. Et je pense que l'invention de notre alphabet, là, ce dont nous parlions, de l'utilisation assez massive de l'alphabet, a quand même probablement facilité la diffusion d'écriture, parce que là, la trentaine de signes dont on se sert pour noter toutes les langues est d'une facilité extrême et ça prend très vite.
Allez, une dernière question, Gilles. Pouvez-vous demander à vos invités pourquoi certaines écritures se font de droite à gauche?
Alors, c'est un problème technique. L'écriture, il y a un problème, la prédominance du côté droit dans la latérisation. Théoriquement, les écritures vont de droite à gauche. Mais comme elles étaient en colonne verticale, on les écrivait en colonne de droite à gauche. Ensuite, on a refait une rotation avec la tablette et une rotation à 90 degrés. Et donc, on est passé de l'écriture verticale en colonne de droite à gauche à l'écriture horizontale de gauche à droite. Ça, c'est le phénomène qui est attesté. C'est un processus qui est sûr pour les écritures grecques alphabétiques. Mais la latérisation, en général, ça commence de droite à gauche et non pas de gauche à droite.
Merci beaucoup. C'est passionnant, en tout cas, cette histoire des origines de l'écriture. Et on peut retrouver vos textes au sein de ce livre qui sort aux éditions Le Pommier, Les origines de l'écriture, ça tombe bien. Et Pascal Vernus, je signale aussi que vous êtes l'auteur du Dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique chez Plomb, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci.
Merci à vous.
Un psy dans la ville.
Sur France Inter.
Manuel Calma, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve comme tous les lundis avec un psy dans la ville. Où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Nous sommes à La Défense avec Raphaël Giacchetti, qui est médecin psychiatre. Et nous avons choisi ce quartier surpeuplé à l'heure du déjeuner pour évoquer les troubles bipolaires, cette maladie qui abîme non seulement la personne atteinte, mais aussi son entourage. Alors, beaucoup d'a priori circulent autour de cette maladie, beaucoup de malentendus aussi. Comme son nom l'indique, elle comporte deux pôles, l'un noir, froid, inerte, l'autre éblouissant, brutal. Et contrairement à ce que l'on imagine, la phase dépressive n'est pas forcément celle qui cause le plus de dégâts dans la vie du malade, comme dans celle de son entourage.
On est à 300 mètres de la Grande Arche, sur l'esplanade de la Défense, entouré d'immenses tours de verre, de quelques milliers de personnes qui vont, qui viennent.
Face à nous, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est un trampoline qui a été disposé là par un designer. Ça paraît insolite, mais un bipolaire, dans son parcours de la maladie, aurait une attitude différente face à ce trampoline.
Ah oui, tout à fait. Là, on peut imaginer un patient hypomane ou maniaque arriver face à ce trampoline et voyez, ce trampoline est vide, il n'y a personne. Eh bien, lui, il irait.
Pourquoi il est vide, d'après vous, ce trampoline-là ?
Ben, nous sommes quand même tous dans un fonctionnement très guidé, avec des balises qui nous laissent peu d'oxygène. Donc, s'autoriser à faire renaître un peu le petit enfant qu'il y a en soi et monter ces quelques marches pour s'amuser sur le trampoline, ben, peut-être que ni vous ni moi sommes capables de le faire.
Est-ce que dans les phases maniaques, on peut dire que la personne, finalement, n'a plus de surmoi, ou en tout cas un surmoi qui va être anesthésié ?
C'est vrai qu'on le cherche, le surmoi. Chez le maniaque, c'est exact, il n'y est plus. Alors, on peut le dire comme ça, il n'y a plus d'inhibition. Il jouit de cette toute-puissance qu'il s'accorde, qui, reconnaissons-le, représente des instants de liberté au sens la plus grande que l'on puisse imaginer.
Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il ait ce sentiment de surpuissance ?
Il y a un désordre biologique, chimique, qu'on ne sait pas expliquer précisément. Aujourd'hui, en ce qui concerne cette instabilité des neurotransmetteurs, cet orage qui se produit dans l'esprit du patient, on ne sait pas. Il y a des hypothèses à l'opposé de ces hypothèses biologiques qui sont des hypothèses psychodynamiques, qui ont trouvé leur source dans le mouvement psychanalytique. Pour certains, il y a donc dans ces phases maniaques, c'est l'acmé de la dépression, c'est-à-dire que la réalité telle qu'elle est tout à fait insupportable et je vais donc rentrer dans le déni total de la réalité, être au-dessus de tout. Et pour continuer à parler de ce trampoline, dans l'immense majorité des cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans l'immense majorité, le patient redescend.
Vous comparez d'ailleurs cette redescente, cette chute à un accident.
Oui, je dis par là que les épisodes successifs laissent des cicatrices psychiques, des cicatrices biologiques qui ont des incidences sur les périodes dites de rémission, c'est-à-dire les périodes où le patient n'est ni en haut ni en bas, qui ont des incidences sur le plan cognitif, sur la mémoire, sur les capacités d'attention, les capacités de concentration. Et puis, après, le bon sens nous permet de comprendre que quand on a mis sa famille en l'air, quand au boulot on s'est ridiculisé, eh bien, quand on redescend sur terre ou sur le tapis du trampoline, c'est bien difficile d'assumer tout ça.
Alors sur le versant noir de la maladie, qu'est-ce qui se passe exactement pour le patient ? Il y a une sorte d'effondrement, d'apathie totale ?
On peut parler d'effondrement, oui. On peut parler de non-vie, de survie à peine. On se trouve incapable. Et puis psychiquement, le cerveau ne fonctionne plus. Avec beaucoup de souffrance, de l'angoisse en général, de la culpabilité, parce qu'on est complètement, à cause de cette phase dépressive, détourné et privé de ses fonctions sociales, de ses fonctions affectives et familiales. Donc c'est une souffrance abominable.
Est-ce qu'on guérit de cette maladie ?
On arrive à stabiliser des patients pendant des années. D'autres patients n'y arrivent pas. Parce qu'au-delà du traitement, ce qui va être déterminant, ça va être aussi ce que va rencontrer le patient dans sa vie. Quand on s'occupe d'un patient qui a 25 ans, qui a derrière lui un épisode, qui n'a pas fait trop de dégâts, il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur le plan psychosocial. En revanche, un patient qui a 50 ans, qui a fait une quinzaine de cycles, qui se retrouve isolé sur le plan affectif, sans boulot, dans une situation financière insécure, c'est beaucoup plus compliqué parce que même si on stabilise la maladie, ce patient est tellement abîmé, tellement abîmé.
Et l'homme que nous venons d'entendre, Manuel, s'appelle Raphaël Giacchetti, il est médecin psychiatre à Toulouse.
À Toulouse. Et son livre s'intitule « La maladie bipolaire, expliquée aux souffrants et aux proches » chez Odile Jacob.
Merci Manuel, à la semaine prochaine pour un nouveau Psy dans la ville.
Merci.
Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite. Tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10.
ficelle. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Hein. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle, prouver cette chose qui nous la rend si belle. Hein. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité. Devenir la première personne des singuliers se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur? Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté. L'artiste, c'est être droit dans ses bottes, être détroit sur 10 000 et garder ses potes. Pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire et puis tant qu'on danse. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle, trouver cette chose qui nous la rend si belle. Existe grâce à quelques femmes, pas de milliers d'amis, ni de centaines de femmes. Une vie de famille acrobatique. Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte. A peur d'être archivé parce qu'on fait moins bien. Appartenir au passé d'un succès lointain. Y mettre toute son âme et si c'est nul, comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent. Tant de poissons vont s'y ronger la grive. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle.
Artiste avec Oxmo Puccino.
La tête au carré. La tête. L'actualité. L'actualité des sciences sur France Inter.
L'actu des sciences avec Christophe Galfard. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et Pierre Kerner. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Pour le Café des sciences, on va commencer avec une histoire courte de pulsars, Christophe.
Exactement, une découverte de Holger Pletsch de l'Institut Max Planck en Allemagne avec son équipe. En regardant dans le ciel, ils ont découvert un pulsar.
Mais qu'est-ce c'est que c'est qu'un pulsar,
voilà. Imaginez qu'une étoile explose à la fin de sa vie. Si elle est gigantesque, elle peut donner naissance à un trou noir. Si elle est plus petite, elle va laisser une naine blanche derrière qui va se refroidir petit à petit. Et entre les deux, on a des pulsars, c'est-à-dire des étoiles à neutrons. Uh-huh. Les neutrons, c'est ces choses qui sont à l'intérieur des noyaux des atomes. Donc c'est extrêmement compact, extrêmement dense. Et violent. Ce pulsar-là tourne 390 fois par seconde sur lui-même.
Oui.
La Terre met un jour pour tourner sur elle-même. Là, c'est 390 fois par seconde. Et elle a un compagnon qui tourne autour d'elle en 93 minutes. Oui. Non pas une année, mais 93 minutes. Ce pulsar-là a même la dénomination de veuve noire, comme l'araignée, car il dévore petit à petit son compagnon. Et en ce moment, il est en train de l'évaporer pour finir au final, j'imagine, tout seul dans l'espace, sans son compagnon.
Et donc là, la découverte, en l'occurrence
En l'occurrence, cette découverte a été faite grâce à de nouveaux moyens de détection. Normalement, pour voir ces choses-là, on a besoin d'ondes radio X, qui sont difficiles à voir. Et là, c'est les ondes gamma, qui sont encore plus difficiles. Une nouvelle technique leur a permis de découvrir ça.
Pierre Kerner, c'est presque une histoire de veuve noire aussi, d'ailleurs, que vous allez nous raconter.
Oui, de prédation en tout cas.
Ouais.
Bon, il y a quelques temps, je vous avais parlé de la relation improbable entre poissons et oiseaux, avec l'exemple de poisson-lune, qui vivent en sorte de symbiose avec des oiseaux marins. Bon, c'était surprenant, parce qu'on a quand même tendance à se représenter que les oiseaux vont être les prédateurs des poissons.
Oui.
Eh bien, Pierre Barthélémy, sur son blog Passeur de Science, nous a dévoilé jeudi dernier que certains poissons étaient de redoutables prédateurs de pigeons.
Ouais.
Alors, certes, on connaissait quand même des espèces de requins capables de chasser des albatros en mer, mais l'exemple déniché par Pierre Barthélémy est différent. Déjà, ça se déroule en eau douce, dans le Tarn, pour être précis. Bon, par contre, le poisson concerné, appelé silure glane, est quand même un sacré bestiaux, hein, puisqu'il peut peser 65 kg pour 2 mètres de long.
On a mis sa photo d'ailleurs sur le site de la Tête au Carré.
Tout à fait, et une vidéo, je crois. C'est d'ailleurs le plus gros poisson d'eau douce d'Europe qui n'est arrivé dans le Tarn qu'en 1983, donc c'est très très récent. Ce qui est particulièrement étonnant, c'est la méthode de chasse qui est employée par le silure, car certains, pour atteindre leur proie, n'hésitent pas à sortir plus de la moitié de leur corps hors de la rivière et à s'échouer sur les cailloux de la rive.
Il faut imaginer, il y a 65 kilos quand même qui fait
ça. Voilà, exactement, 2 mètres de long. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment quand on observe le comportement d'orques qui vont chasser les phoques. Ouais. Mais les orques, par rapport aux silures, eux, ils peuvent respirer hors de l'eau. Donc c'est quand même très, très nouveau comme méthode de chasse.
Et ils font comment une fois sur la rive alors?
Ils vont se tortiller un tout petit peu pour retourner dans l'eau avec ou sans prise, s'ils ont eu de la chance ou pas. Le pigeon est devenu même un aliment de choix parce que chez certains silures, puisqu'il représente maintenant près de 80% de leur régime alimentaire. Hein, ça devient carrément exclusif. Cette chasse de jour représente un changement drastique de comportement par rapport aux silures d'autres contrées, puisque d'ordinaire, ils chassent des petits poissons la nuit. Uh-huh. Donc il s'agit certainement d'une adaptation comportementale à leur nouvel environnement. Par contre, les pigeons, eux, ne semblent pas encore avoir intégré le danger des dents de la rivière.
Ça fait peur, le silure et le pigeon. C'est une nouvelle fable avec donc cette info à lire sur le blog de Pierre Barthélémy, passeur de sciences, qui est en lien sur le Café des Sciences. Et donc, on a une vidéo pour les auditeurs.
On voit le comportement
des silures. Autour de ce poisson, franceinter.fr. Moi, j'ai une autre histoire d'animaux à vous raconter. C'est le site internet de Science et Avenir qui nous l'apprend. Les oiseaux adorent les mégots. Alors, ça n'est pas une raison pour les jeter évidemment par terre, mais des chercheurs mexicains ont découvert que la cellulose des filtres de cigarettes servait à la construction des nids. Et on apprend que si les oiseaux les utilisent, c'est parce que les mégots agissent comme répulsifs contre les parasites en infestant leur logis. C'est des travaux très sérieux qui ont été publiés par la revue Biology Letters de la Royal Society britannique. C'est donc une équipe de l'Institut d'écologie de l'Université de Mexico qui a étudié une population urbaine de moineaux et de roselins familiers, donc un autre oiseau, pendant leur période de reproduction. Et donc, ils se sont aperçus que la cellulose de filtre de cigarette était présente dans plus de 89% des nids des moineaux et 86% des nids des roselins. Les chercheurs ont observé que plus le poids de cellulose était important dans le nid, moins il y avait de parasites. Mais alors évidemment, les scientifiques ne savent pas pour le moment si les mégots sont collectés délibérément comme une sorte d'automédication de la part des oiseaux. Et on ne sait pas non plus évidemment si les produits chimiques des mégots ont une quelconque incidence sur la santé des oiseaux. Mais c'est donc intéressant et à lire sur le site de Science et Avenir. Je crois que c'est une info que vous aviez croisée sur les blogs aussi, Pierre. Une info pour vous, Christophe, sur Voyager 1. Vous nous rappelez ce qu'est cette sonde particulière?
Voilà, on repart un petit peu dans l'espace. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 5 septembre 1977, une sonde a été lancée dans l'espace qui s'appelle Voyager 1.
Mais nous n'étions pas nés enfin en 1977.
Bien sûr que non. Et elle est partie pour essayer de regarder un petit peu Jupiter et Saturne, les planètes géantes qui sont dans les confins du système solaire. Ce qu'elle a fait. Mais elle a continué. Elle est passée le 5 mars 1979 près de Jupiter, en novembre 1980 près de Saturne. Et aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'elle s'éloigne du Soleil pour essayer de sortir du système solaire.
On annonce sans arrêt d'ailleurs sa sortie du système solaire.
Hein. Exactement.
C'est officiel,
on ne sait pas exactement
pas
où elle est, la sortie. Alors, apparemment, elle n'a pas encore atteint cet endroit-là, mais elle n'arrête pas de découvrir de nouveaux endroits. Et là, dans une mise à jour faite sur le site de la NASA par rapport à cette mission, ils ont réalisé que le Soleil lui-même, ça c'est quelque chose qu'on sait déjà, le Soleil émet des particules chargées qui créent ce qu'on appelle le vent solaire. Mmh. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous lancez un filet de fumée, il va commencer par aller tout droit et après ça va être turbulent. Bon, ben, ça fait 4-5 ans que Voyager 1 est dans cette zone de turbulence. Mmh. Après, en se dirigeant vers l'extérieur du système solaire, elle est arrivée dans un endroit où le champ magnétique est en train de changer. Le champ magnétique du Soleil, qui nous protège de tout ce qui se passe ailleurs dans l'espace, est en train de changer. Et là, Voyager 1 a découvert une sorte d'autoroute magnétique aux confins du système solaire, c'est-à-dire un endroit où les particules extérieures au système solaire peuvent se glisser, venir vers nous, pour frapper la Terre par exemple. Vous inquiétez pas, on est protégés nous aussi.
On a notre bouclier.
On a notre bouclier à nous. Et où des particules qui viennent du Soleil peuvent être éjectées vers les confins à l'extérieur, dans l'espace qu'on appelle intersidéral, entre les étoiles. Donc là, c'est probablement la dernière chose, c'est ce qu'ils disent à chaque fois, avant l'extérieur, avant la sortie du système solaire.
Donc Voyager 1 n'est toujours pas sorti officiellement du système solaire.
Non, parce qu'ils pensent...
Il y a toujours des effets d'annonce qui le disent, mais en tout cas, non. Hein,
pour l'instant. En tout cas, c'est l'objet le plus lointain qu'on ait envoyé dans l'espace. Là, je crois qu'elle est à environ 17-18 milliards de kilomètres de nous.
C'est vrai.
C'est-à-dire que la lumière, pour nous parvenir depuis cet objet jusqu'à nous, met environ 17 heures.
Et nous avons donc des signaux quand même toujours.
Oui, on considère qu'on en aura quelques-uns jusqu'à 2025 à peu près.
On espère qu'elle sera vraiment sortie là pour le coup.
Mais parce là, ils disent que dans les deux ans à venir, c'est certain, il sortira. Ce sera le premier objet qui aura quitté le système solaire.
Une dernière info pour vous, Pierre, avec le Café des Sciences.
Oui, très rapidement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais nous célébrons les 116 ans de la disparition d'Alfred Nobel et c'est le jour de la cérémonie officielle de remise des prix Nobel qui se passe maintenant Stockholm et où seront honorés les lauréats de physique, chimie, physiologie ou médecine, littérature et sciences économiques. À titre exceptionnel, les mathématiques seront également mises en valeur à travers le prix Nobel en sciences économiques. C'est sur le blog qui s'appelle Chou Romanesco, Vache Kiri et Intégrale Curviline, c'est le titre intégral de ce blog. Ouais. Son auteur Elidge nous explique que l'économiste Alvin Roth et le mathématicien Lloyd Chapley vont être récompensés pour avoir trouvé des applications concrètes à des algorithmes mathématiques utilisés dans la branche de la théorie des jeux. Alors cet article d'Elidge intitulé « Quatre mariages et un prix Nobel » nous explique comment les travaux théoriques de Chapley sur l'assortiment optimal de couples, donc il avait pris des exemples de mariage, ces travaux théoriques ont pu être utilisés et modifiés par Ross pour des applications pragmatiques sur la répartition par exemple de médecins dans des hôpitaux ou encore d'échanges entre donneurs d'organes et patients en attente d'une transplantation. Bref, c'est une lecture passionnante avec des histoires de couples encore plus trépidantes que dans un soap opéra.
Voilà, donc c'est à croiser sur le Café des Sciences et nous on pense bien au français Serge Haroche, prix Nobel de physique, qui doit se préparer en ce moment, mettre sa tenue et son plus beau smoking pour recevoir son prix donc, ce soir. Un dernier mot pour le Téléthon, vous étiez nombreux cette année encore à faire vos promesses de dons, 81 millions sur le compteur du Téléthon samedi soir. Sachez que le 36-37 reste ouvert jusqu'à vendredi si vous souhaitez évidemment poursuivre vos dons. Merci pour la recherche 36-37. Merci beaucoup à tous les deux. À lundi prochain.